RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonjour et bienvenue dans Mardi politique sur France 24 et sur RFI. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Copé, maire de Meaux, ancien ministre du budget, ancien président de l'UMP. Merci d'être là.
Merci à vous.
Alors on pourrait vous décrire peut-être comme un grand brûlé de la politique, quelqu'un qui a toujours été assez honnête et visé la présidence de la République. L'ascension a été contrariée par plusieurs épisodes. Il y a eu, on s'en rappelle, la bataille fratricide avec François Fillon pour la tête de l'UMP en 2012. Il y a ensuite eu la démission en 2014 et des soupçons sur l'affaire Big Malion, des soupçons dont vous avez été blanchi, peut-être un petit peu trop tard. Vous avez ensuite été candidat à la primaire de la droite en 2017. Vous avez fait un petit score dont vous avez même souvent ri après. Vous avez depuis pris vos distances avec la politique politicienne ou la politique nationale et profitant de ce retrait relatif, vous avez coécrit un livre avec le scientifique Laurent Alexandre, un livre qui s'intitule « L'intelligence artificielle va-t-elle aussi tuer la démocratie ?» C'est publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vous, téléspectateurs et auditeurs, vous pouvez évidemment participer à l'émission sur les réseaux sociaux. Le hashtag est MardiPol. Alors Jean-François Copé, dans cet ouvrage, on parle évidemment de l'intelligence artificielle. Laurent Alexandre affirme que c'est une menace presque existentielle pour nous, pour la démocratie. Et vous dites, c'est vrai, mais on peut y remédier, on doit y remédier.
Oui, absolument. Vous savez, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, qu'est-ce que c'est ? C'est ces machines qui ont été inventées pour imiter l'intelligence humaine et qui, dans certains domaines, vont plus vite que l'intelligence humaine. Je prends un exemple très très concret, dans nos smartphones, beaucoup ont des smartphones aujourd'hui, les applications, elles permettent, grâce à des algorithmes, très vite d'accéder à des informations, les horaires de train ou de bus dans votre ville. C'est aussi dans le domaine scientifique, où les diagnostics médicaux, grâce à l'intelligence artificielle, ont permis de faire des progrès considérables, qui font mieux même que les humains. Bon. Alors ça, c'est les côtés formidables. Il y a aussi des côtés très négatifs, très dangereux. C'est évidemment des choses qui peuvent porter atteinte aux libertés. C'est également les emplois qui sont supprimés. C'est le problème des gens qui se trouvent hors couverture de réseau et qui donc sont un peu abandonnés, beaucoup abandonnés. Bref, c'est le plus et le moins. Et puis, il y a une menace aussi sur la démocratie à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bref, tout ça m'a amené à penser qu'il fallait faire un vrai travail de réflexion. Et j'ai proposé au docteur Alexandre de le faire. Vous savez, c'est un très remarquable scientifique qui a fait un travail absolument passionnant depuis des années pour alerter sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est la première fois qu'il y a un livre qui est écrit entre un médecin et un politique, un scientifique et un politique, pour dire, mais attention, on peut pas passer à côté de ça. C'est une invention énorme, d'où ce livre. Et si j'en crois l'intérêt du public, eh bien, c'est vraiment que ça interpelle vraiment les gens, parce qu'ils se disent, mais il faut qu'on s'occupe de ça sérieusement.
Oui. Et il y a un lien que vous avez tracé un petit peu en conclusion du livre, et depuis dans ce que vous avez dit, écrit, entre intelligence artificielle et, pour en venir à l'actualité de ces dernières semaines, gilets jaunes.
Absolument. Oui, parce que d'une certaine manière, je pense que les gilets jaunes, c'est, pour aller un peu vite, des victimes de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que derrière le numérique, derrière le digital, bien, il y a le sentiment de beaucoup de Français et de Françaises, soit qui ont porté les gilets jaunes, soit qui en ont pas porté, de se dire, mais c'est quoi l'avenir ? Pour nos emplois, est-ce qu'on va comprendre ? Est-ce que ça va pas être technologiquement trop dur pour
nous ? C'est pas nous l'avenir.
Est-ce qu'on va en profiter ? Est-ce qu'on va pas être au bord du chemin ? Donc il y a une angoisse existentielle. Mais quand on fait un pas de recul et qu'on regarde l'histoire de l'humanité, eh bien l'histoire de l'humanité, elle est jalonnée de ces grandes inventions. Le feu du temps de la préhistoire a été une découverte considérable. Plus proche de nous, la machine à imprimer. De Gutenberg. Ensuite, l'électricité, la vapeur, la pénicilline au 19e siècle.
Là, c'est de cette nature-là, l'intelligence artificielle.
Et l'intelligence artificielle, c'est de même ampleur. Et en vérité, pourquoi c'est de même ampleur ? Pourquoi c'est pas juste la petite découverte du concours Lépine ? Eh bien, c'est parce que ça va Et ça transforme déjà complètement la vie des gens, dans tous les registres, dans tous les domaines.
Et donc ça fait peur.
Alors, ça fait peur, mais d'un autre côté, c'est des opportunités. Et donc, certes, Laurent Alexandre, il a raison. Il a raison de tirer la sonnette d'alarme. Il a raison de dire qu'il y a des vrais dangers, y compris géopolitiques. Les Américains avec les fameux GAFAM d'un côté, les Chinois avec les BATX, qui sont les quatre grandes entreprises du numérique chinoises. De la même manière, nous, les Européens, on est en train de regarder le match et on est hors du jeu. Donc, il faut absolument que, à la fois, on se protège, avec des réglementations, avec un cloud européen, c'est-à-dire qu'on les données, elles soient protégées chez nous et qu'elles partent pas aux États-Unis, nos photos, nos comptes bancaires, etc. Puis deuxièmement, ben il faut évidemment qu'on crée les outils pour pouvoir être demain un continent dédié et un pays, la France, dédié à l'intelligence artificielle.
Alors, les gilets jaunes, on va y revenir. On a surtout dit que c'était un mouvement de ras-le-bol fiscal. On a eu droit ces dernières semaines, vous parlez de concours Lépine, à des propositions de plusieurs ministres pour remettre de la fiscalité, oui, soit écologique, soit l'impôt sur le revenu pour tous. Je vous vois faire... Il me semble que Emmanuel Macron a peut-être sifflé la fin de la récréation aujourd'hui en disant, je le cite, qu'il était plutôt favorable à ce qu'une accélération de la baisse de la fiscalité soit décidée à l'issue du grand débat.
Oui, je crois qu'il a raison. Vous savez... on impute peut-être un peu trop de responsabilité au seul Emmanuel Macron. Cette crise, elle était à prévoir. D'abord parce que c'est une inquiétude de millions de gens, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, face au progrès, et notamment au progrès numérique. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans les caisses des supermarchés, qui sont aujourd'hui totalement numériques. Il va y avoir d'énormes suppressions d'emplois. Mais de l'autre, il faut des nouveaux emplois. Bon, donc il y a cette angoisse. Deuxièmement, il y a le fait que depuis 40 ans, c'est pour ça que je disais que c'est pas que Emmanuel Macron, les Français, ils pensent qu'en augmentant les dépenses publiques, ça ira mieux.
Vous étiez ministre du budget, vous êtes bien placé pour en parler.
Oui, et je suis bien placé aussi pour vous dire, je suis le seul ministre du budget qui, pendant les deux années dernières de son mandat, a réduit et les dépenses, et les impôts, et les déficits, et la dette. Donc, vous voyez, je vous invite à vérifier sur les courbes. Non, c'est pas de la magie. Alors, rien à voir. C'est de la volonté politique. Et il faut l'assumer.
Emmanuel Macron en manque, de ce point de vue-là.
Ah bah oui, ça, depuis le début de son quinquennat, il n'a cessé de laisser filer les dépenses publiques. Mais, comme son prédécesseur, pour une raison simple, c'est que on n'ose pas dire non quand les gens demandent plus. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh ben, subrepticement, on augmente tous les ans les impôts.
Il a eu tort de lâcher 10 milliards aux gilets jaunes?
Voilà, il n'avait plus le choix. Pour une raison très simple, c'est que son gouvernement, pour compenser les hausses de dépenses, y était allé allègrement sur les hausses d'impôts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris, les ministres. Ils continuent encore. Entre celui qui dit il faut supprimer les niches fiscales, c'est quoi des niches fiscales? C'est des réductions d'impôts pour orienter l'investissement. J'ai rien dit, on les supprime, donc on les augmente, les impôts. Bon, et un autre ministre qui dit maintenant l'impôt sur le revenu, c'est pour tout le monde. Genre, il y a la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu, pas l'autre moitié. Enfin, on oublie un petit détail, c'est que la moitié qui n'est pas imposable, elle en paye d'autres, des impôts. Elle paye de la TVA, elle peut payer des impôts locaux, elle paye des charges sociales. Donc, faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et je pense qu'effectivement, Emmanuel Macron, voyant la cacophonie, a dit maintenant, allez, ça suffit, fin, on va baisser les impôts. Et donc, on va devoir baisser les dépenses.
Vous craignez que le grand débat fasse un flop?
C'est-à-dire, le grand débat, d'abord, par principe...
Est-ce que c'est un grand débat, déjà?
D'abord, par principe, faire un débat, c'est très bien. Bon, après, il faut quand même savoir si c'était le moment de le faire. Parce que après, quand on lance un débat, il faut savoir comment il atterrit. Et vous voyez qu'il atterrit pas du tout. Puisqu'en réalité, c'est à la petite semaine, chaque jour apporte son lot de gadgets. Et puis, en plus, ça se fait dans des conditions très restrictives. En fait, on va avoir quoi? Des propositions de 50 000 personnes sur un pays qui fait 66 millions d'habitants. C'est évidemment pas représentatif. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit fleurir sur les réseaux sociaux, intelligence artificielle encore, les propositions les plus extrémistes?
Le référendum en fait partie? Le référendum ou c'est plus qu'un gadget?
Le référendum d'initiative citoyenne, en réalité, il faut arrêter de se mentir. C'est quoi? C'est le début d'un process que souhaite ardemment Jean-Luc Mélenchon, et je pense aussi Marine Le Pen, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche, pour changer le modèle de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on élit des députés qui eux-mêmes donnent leur confiance à un gouvernement, et à par ailleurs un président de la République, pour mener une politique. La démocratie représentative, c'est on leur donne le mandat et on leur laisse la liberté de faire pour le bien de la France et le temps, et on se retrouve 5 ans après. Bon, et c'est oui, c'est non, c'est stop ou encore. Qu'est-ce que c'est le référendum d'initiative citoyenne? C'est la première étape du droit de révocation. Vous savez, à partir du moment où il y a un référendum d'initiative citoyenne, quelque part, on force la main de l'exécutif.
Donc ce serait une erreur. Emmanuel Macron serait naïf de faire le travail.
Je pense que si il apparaît que sur des questions vraiment importantes, de conscience, qui touchent aux institutions, il y ait besoin de consulter l'ensemble du pays. C'est le référendum et il faut le cantonner dans un domaine très strict. Si ça devient tout et n'importe quoi, alors c'est la fin de la démocratie représentative, c'est le mandat impératif, c'est comme ça qu'on a eu Robespierre et les tragédies dictatoriales que vous connaissez.
Alors, vous parlez de démocratie représentative, la prochaine échéance, ce sont les élections européennes. Alors, on va regarder un sondage qui a été fait par Ipsos pour le CEVIPOF, la Fondation Jean Jaurès et le journal Le Monde, les intentions de vote. On voit que La République En Marche et le Modem sont en tête, 23%, devant le Rassemblement National, 19,5%, les Républicains, 12%, Europe Écologie, les Verts, 8%, la France Insoumise, 8%, Debout la France, 6%, Parti Socialiste, 5%. Et on va voir les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2017. Et on va voir que Emmanuel Macron avait eu 23,75%, Marine Le Pen, 21,5%. François Fillon, presque 20%, Jean-Luc Mélenchon, 19,6%, Benoît Hamon, 6%. Alors, ce qui est marquant, c'est que finalement, Emmanuel Macron, Marine Le Pen sont plus ou moins au même étiage. Il y a deux grosses différences. Jean-Luc Mélenchon qui fait beaucoup moins bien, et les Républicains qui font 12%, et encore, c'est plutôt un bon sondage. Ça en dit beaucoup sur l'état de ce parti que vous connaissez bien.
Oui, c'est ce que vous dites, oui. Bah, écoutez, bon, d'abord, c'est un sondage, on verra bien ce que sera le résultat. Bon, je ne vais pas vous dire que tout va bien. Moi, je suis très inquiet pour la droite française, parce que...
Elle est en danger de mort.
De mort, n'exagérons rien, mais elle est en danger, oui, elle est en danger. Moi, je me souviens très bien de 2014. J'étais à l'époque en charge de notre famille politique. Vous avez bien voulu d'ailleurs le rappeler, j'ai été innocenté totalement de toutes les infamies qu'on a essayé de me faire porter sur les épaules.
Contrairement à Nicolas Sarkozy.
Et Monsieur Gisbert, du Point, qui avait été à l'origine d'une attaque, d'une violence extrême, a été condamné définitivement, il y a de cela un mois, par la Cour de cassation pour diffamation, pour m'avoir diffamé. Et je le dis parce que personne ne veut naturellement en parler dans la presse française. Et c'est bien dommage parce que ça aussi, ça porte atteinte à l'équilibre de la démocratie. On salit les hommes politiques et on se garde bien quand on découvre qu'ils sont totalement innocents de les réhabiliter. En ce qui concerne cette situation, moi, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que je me dis finalement, il y a un moment où il va falloir quand même que la droite française pose quand même les questions de son existence, des raisons de son existence. La famille de la droite française, elle est à la fois gaulliste, elle est européenne et elle est libérale et sociale. Bon, elle ne peut donc pas être simplement l'accessoire de l'extrême droite française, parce qu'alors
elle se condamne. C'est ce qu'elle est.
Mais le risque, en tout cas en termes de message, à travers certaines ambiguïtés, est réel. Et donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Vous savez, en 2014, je faisais allusion tout à l'heure, nous avons réalisé le score de 20,8%.
Ce qui était déjà considéré comme un très mauvais score.
Par mes éventuels rivaux.
Mais aujourd'hui, c'est
21%, 21%, 20,8, plus 8% du DI, nous étions à quasiment 29. Aujourd'hui, 12% pour les Républicains, 2% pour l'UDI. Vous vous rendez compte l'effondrement? Donc c'est ça le sujet. Et il y a un moment où il va bien falloir quand même que les vraies questions soient posées.
Laurent Wauquiez, c'est une vraie question?
Bon, enfin, j'en sais rien.
Moi, vous le portez pas dans votre cœur.
C'est pas des questions personnelles. Moi, j'ai une divergence que tout le monde sait assez profonde avec la manière dont
Vous avez parlé de droite décomplexée. On peut le dire qu'il l'incarne, non?
Sûr, non, mais vous savez, moi, j'ai été très clair sur ce concept. C'est moi qui en ai été l'auteur. Oui. La droite décomplexée, pour moi, c'est surtout pas ça. La droite décomplexée, c'est une droite qui est décomplexée vis-à-vis de la gauche. C'est-à-dire qu'il n'a plus de complexe à s'assumer de droite par rapport à la gauche. Mais la condition pour cela, c'est d'être hermétique avec le Front National.
Elle ne l'est plus.
Ça dépend des jours. Et moi, je considère qu'il ne doit pas y avoir de minute où il puisse y avoir une ambiguïté.
Vous avez l'impression que Laurent Wauquiez, quelque part, se dit que si la droite est autour de 12%, une alliance avec le Rassemblement National serait la solution.
Si jamais il devait sombrer dans cette tentation, mais je pense qu'il y aura suffisamment de bêta-bloquants pour empêcher cela, alors là, la droite, elle ne sera plus à 12, elle sera à 5. Parce qu'alors, il n'y aura plus aucune raison pour les électeurs de faire la différence.
Je veux en venir à une polémique, une de plus, qui a duré finalement une journée à peu près, celle sur le hijab de course, comme on l'a appelé, qui a été mise en vente par la société Decathlon, qui, face à la controverse, a finalement décidé de faire machine arrière. C'est pas, on se souvient du burkini, vous vous souvenez évidemment de la loi contre la burqa.
Ah oui, c'est moi qui l'ai fait voter. Donc, écoutez, moi, je suis.
Mais c'est pas la même chose. Est-ce qu'on n'est pas dans une obsession sur l'islamisme en France?
Non, il n'y a pas d'obsession. Il faut juste être lucide, réaliste et ferme. L'islamisme radical, le fondamentalisme religieux n'a rien à voir avec l'exercice normal d'une religion. Le fondamentalisme, l'extrémisme doit être combattu comme dans une démocratie normalement organisée.
La burqa, c'est une chose. Là, c'est pour faire du sport. On ne se voile pas le visage.
Decathlon. Non, c'est pas la même chose. Mais Decathlon, ça leur pendait au nez quand même. Bon, à partir du moment où on est dans une société qui est quand même très 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 secouée par ces questions de communautarisme, forcément, à partir du moment où on rentre dans le débat et on y rentre en étant un peu borderline par rapport aux grands principes de la laïcité, on s'expose à ce type de risque.
Est-ce qu'il faut légiférer encore plus?
Je pense qu'il y a un moment où chacun comprend quand même les messages. Quelle est l'idée? L'idée est que dans notre pays, que pour reprendre la formule que nous avions utilisée pour la loi d'interdiction de la burqa, la République française, elle se vit à visage découvert, pour les hommes comme pour les femmes. Bon, à partir de là, chacun doit en tirer un certain nombre de conséquences. Ça ne touche pas à l'exercice du culte, qui lui relève de chaque religion. C'est le sacré. Ça touche à la liturgie, ça touche au comportement en société. Le comportement en société dans une société laïque a toujours été le même, une certaine forme de discrétion par rapport au port de signes susceptibles d'être des signes religieux. On connaît tout cela. Donc forcément, quand ce genre d'incident arrive, il crée une polémique entre les pros et les anti. C'était écrit d'avance.
Vous en voulez toujours à François Fillon pour cette bataille pour l'UMP, à Nicolas Sarkozy pour l'affaire Big Malion. Il se trouve que aujourd'hui c'est tous les deux qui ont maille à partie avec la justice, vous avez l'impression?
J'ai donc pas de raison de leur en vouloir, puisque les choses se sont passées comme elles devaient se passer.
Oui, mais...
Pour le reste, moi vous savez, j'ai tourné cette page. J'ai pris la décision de me concentrer sur ma ville de Meaux, dont je suis le maire, et un maire profondément heureux, parce que j'y vois la réalité concrète du terrain. Je regrette que l'on interdise au maire d'être député, parce que ça fait une assemblée complètement à l'ouest. Je suis avocat, par ailleurs, et je participe au débat public, par exemple, à travers la publication de ce livre avec Laurent Alexandre, l'intelligence artificielle et la démocratie, parce que je pense que ce sont des sujets autrement plus passionnants que les chicaïas auxquels on assiste. Pour le reste, j'ai tourné la page de tout ça. Que mes aînés, l'un d'entre eux que vous avez cité, n'aient pas supporté que je l'ai battu à la présidence de l'UMP et ait inventé avec le concours de quelques journalistes et de quelques barons la mystique de la triche, alors que c'était faux et qu'il le savait d'ailleurs pertinemment au fond de lui-même, c'est juste qu'il n'avait pas fait campagne. C'est ainsi. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout dans ça. J'ai tourné cette page. J'espère...